insister sur toutes les questions de nomastique, c'est-à-dire d'identification des noms de lieux. On avait vu qu'il y avait différentes méthodes. D'abord, une conservation du nom, notamment en ce qui concerne les Arabes, qui avaient récupéré un certain nombre de noms de l'époque biblique en les arabisant, si j'ose dire. Ensuite, le nomasticon de Zeb, évêque de Césarée, qui date du IVe siècle. Et puis, troisièmement, la carte de Medva, cette carte en mosaïque qui date du VIIe siècle après Jésus-Christ, VIe, VIIe siècle après Jésus-Christ. On va voir ce soir un autre aspect aussi tout à fait important, c'est les méthodes modernes d'archéologie. Depuis un certain nombre d'années, l'archéologie dispose d'outils de recherche souvent très pointus qui permettent justement d'affiner un certain nombre de résultats et qui sont le résultat justement d'évolutions de techniques diverses que nous allons justement essayer de voir. Je pourrais dire personnellement que ces instruments sont à double tranchant. C'est vrai que d'un côté, ils permettent de préciser des choses qui n'auraient peut-être pas été possibles de faire avant, mais la technicisation de l'archéologie, qui est quand même un des phénomènes de ces dernières années, a eu aussi des résultats négatifs, comme un peu partout dans toutes les sciences. La science archéologique était, comment vous dire, beaucoup basée sur, comment on pourrait dire, un peu le flair, quoi, hein, une espèce de talent inné de l'archéologue, de repérer un certain nombre de situations, etc. Et en même temps, l'archéologue était jusqu'à dans les années 70-80, était un homme qui touchait à de multiples disciplines. C'était évidemment aussi un historien, c'était un bibliste, c'était un linguiste qui avait connaissance des langues anciennes, même si ensuite il y avait évidemment des spécialisations dans tous ces différents domaines, etc. Aujourd'hui, avec l'évolution des techniques, il y a une séparation de ces différentes disciplines. Il y a à la fois ce qu'on appelle en anglais « the field archaeologist », l'archéologue de terrain, celui qui pratique les fouilles. On a ensuite des spécialistes divers, d'architecture par exemple, de déchiffrement des documents, des spécialistes des poteries. Bon, ça a toujours été un peu... qui avait été plus spécialisé dans ce domaine que dans l'autre. Mais enfin, en général, tout archéologue qui se respectait touchait à ces différents domaines. Ce qui fait qu'il y a une compartimentisation de l'archéologie qui s'est créée et qui fait que très souvent, on a affaire à des spécialistes qui sont très compétents dans leur domaine propre, mais qui souvent sont ignares en ce qui concerne, ou en tout cas... peut-être pas, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, qui ont peu de connaissances dans les autres disciplines. Si bien qu'on a des analyses très fines, on a parfois beaucoup plus de difficultés à avoir des synthèses qui soient vraiment intéressantes. Et alors, justement, c'est ce qui provoque un des gros problèmes de l'archéologie moderne. Il faut bien le dire quand même, depuis quelques années, une certaine stagnation à ce niveau-là, justement, et à mon avis, c'est une des raisons. Yigal Yadin, avant sa mort, en 1984, avait un peu tiré la sonnette d'alarme à ce niveau-là, à un moment où, justement, la tendance de la nouvelle génération des archéologues, c'était justement de faire que l'archéologue ne soit qu'un technicien et non plus un humaniste. Jusqu'à son dernier souffle, Yigal Yadin s'est battu justement pour que les archéologues restent des humanistes. Bon, il n'est plus et toute cette génération aussi disparaît, si bien que maintenant la nouvelle génération a cette vision moderne que du tout technique, l'ordinateur, etc., est devenu maintenant l'instrument principal des fouilles archéologiques comme l'instrument principal de toutes les autres sciences, bien sûr. Autre évolution de l'archéologie moderne, c'est justement l'apparition de ces fameux nouveaux archéologues et nouveaux historiens. Pendant tout un temps, bon, si on reprend un petit peu l'histoire de l'archéologie biblique, disons, les premiers archéologues, qui étaient des gens, des archéologues amateurs, nous avons vu que les premiers fouilleurs au Moyen-Orient étaient les consuls européens qui s'ennuyaient ferme là-bas au Moyen-Orient et qui employaient leur loisir forcé justement à fouiller. Des gens comme Émile Botta ou d'autres. Bon. Ces gens-là, en fin de compte, ont été les premiers à découvrir des choses qui ont révolutionné la connaissance de la Bible, tant et si bien que la première génération d'archéologues professionnels, si j'ose dire, tels que Rawlinson ou bien d'autres, ont été des gens qui partaient avec le désir de trouver des objets, des sites qui éclairent la Bible, à la limite même qui la confirment. D'où justement la naissance de ce qu'on appelait l'archéologie biblique. Est venu ensuite avec Albright et l'American School of Oriental Research, une autre génération de gens qui avaient un peu cette même visée, mais d'une manière peut-être un peu moins passionnelle, et qui, outre l'archéologie proprement biblique, se sont intéressés à l'histoire extra-biblique, si j'ose dire, ça veut dire d'avant la Bible et aussi d'après la Bible. Après la création de l'État d'Israël, ce sont tous les élèves d'Albright qui ont pris la relève. C'était des ardents sionistes, tels Gilad Yadin, par exemple, qui était un peu le chef de file de cette tendance. Et on les a accusés, à tort à mon avis, d'utiliser l'archéologie à des fins idéologiques. Ça veut dire pour confirmer que le peuple d'Israël était bien dans sa terre, puisque on retrouvait, n'est-ce pas, de nombreux objets qui étaient des traces de la présence juive sur la terre d'Israël. Je me souviens de ce pilote des bateaux qui nous faisait traverser le lac il y a très longtemps de cela, et qui nous disait « Comment est-ce qu'on peut dire que nous ne sommes pas dans ce pays ? Chaque fois que nous donnons un coup de pioche dans ce pays, nous découvrons des traces de la présence juive en Eretz Israël depuis les origines, pratiquement d'une manière ininterrompue. Bon. » Et pendant ces années-là, on est allé jusqu'à prétendre que l'archéologie était un sport national en Israël. Il faut dire que, c'est vrai, le pays d'Israël, le petit pays d'Israël, est un des pays qui a le plus de vestiges archéologiques au kilomètre carré, et il est particulièrement fréquent quand on fait des travaux, parfois même simplement pour construire un bâtiment, une maison même privée, de tomber par le plus grand des hasards sur parfois des vestiges archéologiques d'une très grande valeur. Ça a été le cas, par exemple, il y a quelques années de cela, quand on a creusé une route nouvelle dans la vallée qui va vers Bethléem, dans la vallée de la Géhenne, où soudain on est tombé sur une tombe ancienne qui contenait un ossuaire, et sur cet ossuaire était marqué Joseph ben Caïphas. Joseph Caïphe, donc le Caïphe dont il est question dans la Bible. Ça a été une découverte fortuite, hein, qui a été faite alors qu'on ne la cherchait pas du tout. C'est fréquent ce genre de choses. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ceux qui font ces travaux, par exemple une route, un bâtiment, doivent immédiatement signaler au département des Antiquités le fait qu'ils ont trouvé des vestiges archéologiques. Et c'est très gênant pour eux, c'est très embêtant d'ailleurs, parce que ça oblige à interrompre les travaux jusqu'à ce que des archéologues soient venus sur place. Alors éventuellement, si la découverte est importante, le permis de construire peut être retiré. Ou bien, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les archéologues font ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit ça en français, salvage expedition, on dit en anglais, une expédition de sauvetage en quelque sorte pour sauver l'essentiel de ce qui est là, et puis après on laisse les travaux se poursuivre. Alors ça ne fait que interrompre pour un temps les travaux. On essaie de faire le plus vite possible, évidemment, pour ne pas gêner les travaux qui sont ainsi prévus. De ce fait, effectivement, N'importe qui est à même de découvrir soudain quelque chose, une découverte tout à fait extraordinaire, tout à fait exceptionnelle, comme par exemple la découverte de cette petite grenade d'ivoire qu'on a vue là au dernier voyage, qui est aussi quelque chose qui s'est fait d'une manière tout à fait fortuite. Alors, que certains aient parfois effectivement utilisé l'archéologie pour démontrer, pour prouver que, etc., je ne nie pas, après tout. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une certaine légitimité à agir de cette manière-là, hein? C'est intéressant de noter que les Arabes sont en train de faire exactement l'inverse, mais dans le même optique, c'est-à-dire s'efforcer de faire disparaître toute trace de présence juive, notamment de Jérusalem et du mont du Temple, pour essayer de montrer qu'il n'y a jamais eu de temple sur ce qu'ils appellent, eux, l'esplanade des mosquées. Bon. Et c'est la raison pour laquelle ils sont en train de détruire des vestiges archéologiques d'une valeur inestimable. Les archéologues israéliens ont crié au secours, mais ni l'UNESCO qui a voulu essayer à tout prix de sauver les Bouddhas, les fameux Bouddhas à la base, pas du bout du monde, quand ils ont été détruits par les talibans, ni le gouvernement israélien qui avait peur des troubles avec les Arabes, n'ont levé ne serait-ce que le bout du petit doigt pour essayer justement de sauver ce patrimoine inestimable de l'histoire de l'humanité. Bon. Alors, c'est à double tranchant. Hein. Alors, de ce fait, une nouvelle génération d'archéologues, aujourd'hui, a même nié le fait qu'il existe une archéologie biblique. Et la tendance actuelle de la génération des jeunes archéologues israéliens, c'est de détacher complètement l'archéologie de la Bible et de faire en sorte qu'on fasse totalement abstraction de la Bible. Ce qui est d'ailleurs tout à fait amusant, c'est de constater que, sous prétexte de faire abstraction de la Bible, on en prend le plus grand, on l'observe avec la plus grande attention, c'est-à-dire que chaque fois que une découverte pourrait sembler confirmer la Bible, on s'efforce de lui faire dire le contraire de ce que la Bible dit. Alors, c'est le renversement des choses. On accuse les archéologues bibliques de vouloir trouver des confirmations de la Bible, mais les nouveaux archéologues s'acharnent à essayer de découvrir des faits qui contrediraient la Bible. Bon, c'est le cas, par exemple, de ce monsieur Finkelstein, que nous avons eu l'occasion d'épingler, et tous ceux qui sont autour de lui, n'est-ce pas ? Alors, Yigal Yadin, avant sa mort, justement, dans la dernière conférence qu'il a faite au congrès d'archéologie biblique, justement, il avait convoqué en 1985, donc il est mort un peu plus tard. Le livre a paru en 85, mais c'était en 84 que c'est tenu le congrès. Il avait convoqué un congrès d'archéologie biblique. Et dans le discours d'ouverture qu'il avait fait, il avait défendu justement l'idée d'une archéologie biblique. Et il avait donc redit avec force qu'il n'était pas possible pour un archéologue qui travaillait en tout cas sur la terre d'Israël et dans les pays bibliques de faire abstraction de la Bible. Que seule la Bible était capable de nous donner parfois le sens d'un certain nombre de découvertes qui autrement seraient restées muettes et que, somme toute, si aucun archéologue n'aurait idée d'écarter les annales assyriennes, par exemple, ou les sources égyptiennes, ou les écrits d'Ougarit, ou n'importe quoi, dans ses recherches, n'est-ce pas, au nom de quoi ostraciserait-on la Bible, n'est-ce pas ? Mais bon, bien sûr, pour des raisons idéologiques, beaucoup de nouveaux archéologues se sont écartés de cela. Si bien que c'est vrai qu'actuellement, en Israël, on a une archéologie qui est nettement plus pauvre que ce qu'elle était, depuis la création d'Israël jusque dans les années 80. C'est dans les années 80 que tout a basculé, même déjà un peu les années 70, l'influence de la guerre du Vietnam, où beaucoup d'archéologues aussi américains qui travaillaient avec leurs collègues israéliens étaient des ardents militants de la cause vietnamienne, qui voyaient le marxisme avec sympathie et qui ont essayé d'appliquer un certain nombre de découvertes archéologiques la grille marxiste d'explication. les jeunes archéologues tels que Finkenstein, enfin, il est plus jeune que ça, à 45 ans, enfin, c'est la nouvelle génération, disons, sont restés aussi marqués par le marxisme, mais finalement, se prétendent. D'ailleurs, ils ne prétendent pas, non, ils ne prétendent pas être dépourvus d'idéologie. C'est finalement cette nouvelle idée qu'on a aussi en histoire, que la neutralité, l'objectivité est impossible aussi bien en histoire qu'en archéologie, et que tant qu'à être subjectif, eh bien soyons-le consciemment. Donc ils ont fait des choix, idéologiques, ils ont fait des choix doctrinaires, politiques, ils l'affirment, ils le revendiquent, et au nom de ces choix, eh bien, ils interprètent les résultats qu'ils ont faits. Finalement, c'est ce que disait le professeur Moon de l'Institut Moody des sciences, et il y a bien longtemps de cela. Les problèmes entre la science et la foi viennent quand on ne s'en tient pas aux faits. Il y a deux livres, disait le professeur Moon, de Dieu. Il y a la Bible et il y a le livre de la nature. Et les deux livres sont en accord parfait quand on s'en tient aux faits et non pas aux hypothèses. Aux interprétations. Les difficultés naissent quand on s'attache aux interprétations, aussi bien de la Bible que de la science. Alors aujourd'hui, on en est là à peu près, si vous voulez, dans l'archéologie. Maintenant, ceci dit, il y a encore des archéologues sérieux, des archéologues qui sont des archéologues qui prennent la Bible au sérieux, aussi bien en Israël que d'ailleurs en dehors, des gens, des étrangers, notamment des Américains, qui viennent faire des fouilles archéologiques en Israël. Donc tout n'est pas perdu, mais c'est vrai qu'on est quand même, par rapport à la grande époque des années 60-70, on est quand même maintenant à un ton nettement en dessous. Bon, ceci nonobstant, comme je disais tout à l'heure, les découvertes nouvelles qui sont faites sur le plan technique. Bon, première technique qui a fait beaucoup de bruit depuis de très nombreuses années, la datation par les radioisotopes. La plus célèbre est celle du carbone 14. Bon, qu'est-ce que c'est que cette technique ? Le carbone est un des composants essentiels des êtres vivants, aussi bien animaux que végétaux. Le carbone est assimilé par les êtres vivants dans l'atmosphère. Et là, donc, ce carbone, il est assimilé par la respiration des êtres vivants. Et lorsque l'individu meurt, il cesse de respirer, donc il n'assimile plus de carbone. Bon, l'être vivant transforme le carbone, dont le poids atomique est 12, en un isotope, c'est-à-dire un atome un petit peu modifié. Alors tu m'expliques comment c'est, tu as fait de la physique.
Il y a
deux électrons en plus. Voilà. Donc, et ça, c'est si vous voulez, le métabolisme des êtres vivants qui transforme le carbone qui est à l'état naturel dans la nature, donc à 12 électrons qui se baladent autour de son noyau, il le transforme en un isotope. Hein. Bon. Ce qui se passe lorsque l'individu meurt, c'est que les atomes de carbone 14 ont tendance à revenir à leur état ante, c'est-à-dire à revenir à 12. Sur une période de, je ne sais plus exactement, on connaît à peu près le temps que met un atome de carbone 14 pour redevenir un atome de carbone 12. Donc, connaissant cela, on peut calculer, si vous voulez, en mesurant le degré de radioactivité qui est encore dégagé par le carbone, l'isotope de carbone, car aussi longtemps qu'il n'est pas revenu à son poids moléculaire normal, il continue à diffuser de la radioactivité. Donc, aussi longtemps que... Alors, on mesure le degré de radioactivité et, en principe, on est capable de déterminer l'âge à laquelle, plutôt le temps depuis lequel l'individu est mort, l'individu a cessé de respirer. Bon, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe. D'abord, on s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs énormes qui étaient faites, que la méthode était extrêmement imprécise, et que, notamment, on avait une marge d'erreur qui allait de 50 à 200 ans. Bon, en archéologie, c'est considérable. Une erreur de 50 ans, c'est énorme, en archéologie. Une marge de 200 ans, autant dire que c'est, là, quand on a dit plus ou moins 200 ans, on n'a rien dit du tout, parce qu'on n'est pas plus avancé. L'archéologue va s'arracher les cheveux de désespoir en disant si j'ai une marge de 200 ans, plus ou moins, ça ne me sert à rien du tout. Donc ce type de mesure est tout à fait dérisoire. Maintenant, bien sûr, des méthodes modernes ont tenté d'affiner justement cette méthode. Et on prétend aujourd'hui qu'on arrive à des précisions beaucoup plus importantes. Bon, il y a une dizaine d'années de cela, quand j'étais à Moscou, j'ai pu rencontrer donc Dimitri Kuznetsov, dont c'était la spécialité. Il était un spécialiste de ces méthodes de datation par les radioisotopes. Et il nous a expliqué ce qui était justement susceptible de fausser les résultats. Alors, il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent fausser les résultats. Par exemple, l'environnement. Il peut y avoir justement un enrichissement en carbone qui se fait par la décomposition d'autres substances, des plantes qui sont là tout autour, n'est-ce pas, et qui se mêlent par exemple à des ossements. C'est le cas dans les tombeaux souvent. Des moisissures ou des êtres microscopiques ou parfois carrément des lichens, des fougères, des choses comme ça, qui viennent se greffer autour des ossements et qui font que finalement il y a un enrichissement qui se fait en carbone, si bien qu'on se trouve complètement déphasé si on ne prend pas ça en compte, et on ne peut pas le prendre en compte parce qu'on ne sait pas quelle a été la quantité justement par exemple de lichen qui s'est attaché à ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des variations climatologiques aussi qui peuvent intervenir, qui font que la décomposition finalement n'est pas uniforme. Enfin, il y a toutes sortes de composantes qui viennent là, si bien qu'on n'est absolument pas ici le carbone 14. Et toutes les méthodes de datation par le radiocarbone sont extrêmement aléatoires. Je me souviens de ce que racontait Gadine, qui un jour avait donné à dater donc un objet qu'il avait lui-même daté par la méthode traditionnelle, disons, et qui donc avait eu des résultats parfaitement différents de celui extrêmement différent de ce qu'il avait lui-même trouvé, quoi. Ce qui fait que, bon, Gadine est mort en 84, donc ça, le temps a passé, mais finalement, je ne suis pas du tout certain que depuis, on ait tellement fait de progrès dans ce domaine-là, même si on prétend avoir fait le contraire. Un des exemples les plus caractéristiques que prenait Dimitri Kuznetsov, c'était le fameux suaire de Turin, que justement cette méthode de datation par les radioisotopes a daté du Moyen Âge. Seulement, on oublie une seule chose, c'est que le linceul de Turin avait été enfermé dans une châsse en argent, et que dans je ne sais plus à quelle époque, l'église dans laquelle se trouvait cette chape en argent avait brûlé, et on avait réussi à sauver donc le linceul au moment où, vous savez, l'argent est un métal qui fond à température relativement basse. Et l'argent, donc, avait commencé à fondre. Et quand on a éteint l'incendie, un morceau du linceul était brûlé déjà, et il a fallu donc le couper du reste. On voit encore sur le linceul, les photos du linceul, les dépôts d'argent, n'est-ce pas, qui ont fondu. Or, l'argent est un catalyseur du carbone 14, du carbone en général, tant et si bien justement que dans un incendie, il y a un dégagement de carbone qui a été donc fixé sur le linceul par l'argent qui sert de catalyseur à au carbone, quoi, et qui fait que là aussi, selon lui, les résultats ont été totalement faussés, si bien que quand on l'a vu, il était en train d'essayer de reprendre la datation du linceul de Turin. En tout cas, il était certain, lui, qu'on ne pouvait pas tenir pour fiables les résultats qui avaient été donnés par le laboratoire qui s'était attaché à ce genre de recherche. Bon, dans un autre ordre d'idée, il y a d'autres méthodes de datation que le carbone 14, par l'argon, par un certain nombre d'autres gaz qu'il y a dans l'atmosphère et qui aussi donc sont assimilés par les êtres vivants ou parfois par des êtres qui ne sont pas vivants, par des minéraux. Et là aussi, les erreurs sont encore plus énormes qu'avec le carbone 14. Avec le potassium-argon, c'est une méthode alors là qui peut donner des erreurs monumentales, comme notre ami M. Berthaud a pu le démontrer quand il avait pris des roches qui étaient le résultat de l'explosion du volcan du Mont-Sainte-Hélène. et qui les avait données à analyser sans dire d'où elles provenaient, et du fait qu'il les avait datées avec précision, je crois qu'elles dataient de 8 ans. C'était 8 ans après l'explosion du Mont-Sainte-Hélène, donc ces roches dataient de 8 ans, c'était des laves qui s'étaient solidifiées. Et donc il les a données à deux laboratoires différents, à dater par le procédé de potassium-argon, et alors ils nous ont donné des résultats faramineux, 300 000 ans, ou un autre encore pire, je crois. C'était à mourir de rire, quoi. Bon, donc, ces résultats sont extrêmement aléatoires. Et aujourd'hui, justement, beaucoup de ces jeunes archéologues qui ne connaissent pas vraiment la chimie ont une confiance aveugle. Excusez tout à l'heure, le problème, c'est que c'est tellement compartimenté, maintenant, l'archéologie, qu'on fait confiance aveugle à celui qui est à côté de soi. Vous avez des spécialistes de la datation par les radioisotopes. Alors bon, on a trouvé un objet organique, un os, un morceau de bois ou quelque chose comme ça, un morceau d'étoffe, paf, on le donne à dater aux collègues qui s'occupent de la datation par les radioisotopes, et puis on lui fait une confiance aveugle. Alors évidemment, très souvent, ça correspond à ce que l'on souhaite, justement parce que on a envie justement que la Bible soit fausse. Bon, d'où justement par exemple aussi Finkenstein qui emploie beaucoup de ces techniques-là. Bien, mais c'est justement le problème. Là, on est en droit de mettre en question, comme je disais à nos braves amis réformés, là, c'est un peu ça. C'est pas parce que quelqu'un, monsieur, a un titre comme ça qu'on est obligé de s'incliner. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe bien souvent. C'est pas l'archéologue du terrain, son collègue spécialiste des radioisotopes a dit que c'était telle date. Bon, il discute pas. Hein. Il n'a pas l'honnêteté qu'avec Yadine d'essayer de redater par d'autres méthodes, de recouper. Hein. Il discute pas parce que il est tellement sûr que c'est une technique qui est au point que voilà. Hein. Et c'est évidemment pas son collègue qui va lui dire le contraire, parce que lui évite ça. Il y a aussi, vous savez, des considérations très très terre-à-terre à ce niveau-là. Vous pensez bien que, à moins d'être un homme honnête comme l'était Dmitri Kuznetsov, qui disait honnêtement, écoutez, moi, je ne peux pas vous garantir, vous me donnez à dater telle chose, mais je ne pourrais pas vous garantir que ce sera exact. Je peux vous donner quelque chose, une approximation, pas plus. Bon. C'est évident qu'on ne se bousculait pas. Les gens ne venaient pas faire dater des objets chez Kuznetsov parce qu'ils savaient que, bon, ils connaissaient la réponse d'avance. Hein, bon, ben, vous comprenez que ça, il faut être chrétien, il faut avoir des principes pour pouvoir dire des choses comme ça. C'est beaucoup plus facile de dire, bien, écoutez, moi, je vais vous dater ça au jour, minute et seconde près, dixième de seconde même. Voilà. Hein. Donc là, c'est des choses qu'il faut savoir aussi, justement, et ne pas être dans cette admiration béate pour les scientifiques. Deuxièmement, il y a maintenant d'autres méthodes, alors qui, elles, sont un petit peu plus précises, par, justement, l'étude des végétaux. C'est ce qu'on appelle la dendroarchéologie. Dendro, ça veut dire arbre en grec. Donc, vous savez que les arbres... quand il se développe, quand on coupe un tronc par le travers, on voit des espèces de cercles concentriques sur la coupe de l'arbre qui correspondent à la croissance de l'arbre. Ça, c'est le principe de base. Et à partir justement de microscopes électroniques qui peuvent agrandir considérablement justement, parce que bien sûr on n'a pas, quand on trouve un objet en bois par exemple, ce qui est assez rare en archéologie, parce que le bois est évidemment un matériau qui se détériore avec le temps très facilement. Mais notamment dans le pays d'Israël, vu les conditions de certaines régions, de sécheresse de certaines régions, on a la chance de découvrir des objets en bois ou même par exemple des étoffes, des choses comme ça qui sont d'origine végétale, par exemple le lin ou bien des vêtements de lin ou des choses comme ça, c'est souvent le cas d'ailleurs, le lin. Et alors quand on a affaire à des produits végétaux, grâce à des microscopes électroniques, on peut essayer de reconstituer quel était, si vous voulez, l'âge de l'arbre dont l'objet a été tiré. Et à peu près donc de dater. Bon, vous voyez aussi tout ce que ça peut avoir quand même un peu d'aléatoire et un peu d'approximatif. Parce que finalement, comme nous l'avons dit, le gros problème en archéologie, c'est toujours le même, c'est le problème de la datation. Alors, toutes ces méthodes pointues, comme on dit, sont des méthodes qui touchent autour, justement, de la datation. Bon, qu'est-ce qu'on a encore ? On a aussi, bien sûr, maintenant, la possibilité d'avoir des lectures très fines d'inscriptions qui sont pratiquement invisibles à l'œil nu, même avec des loupes. Avant, évidemment, le spécialiste du déchiffrement des manuscrits anciens utilisait la loupe. Aujourd'hui, on a des microscopes électroniques extrêmement sophistiqués, du type de ceux qui sont employés parfois par la police et les laboratoires de criminologie, vous savez, pour essayer de découvrir les traces d'empreintes digitales, de choses comme ça. Si bien qu'on arrive à ce moment-là à lire, par exemple, d'anciens papyrus ou bien dans ces inscriptions d'une manière très, très précise. Ça, c'est quand même un progrès considérable qui a permis de lire souvent des écritures anciennes. Le problème des écritures anciennes, c'est que souvent elles sont très, très difficilement lisibles. Bon, on a réussi aussi à avoir des techniques qui permettent de conserver justement des matériaux périssables. Je prends un exemple que vous connaissez tous. En 1986, on a découvert à Migdal Tariqué, c'est-à-dire la Magdala biblique, à 5-6 km au nord de Tibériade, un bateau qui était enfoui dans le sable, un bateau qui datait de l'époque du Nouveau Testament, l'époque du Deuxième Temple. Ce bateau avait été enseveli dans la boue, et à l'occasion d'une sécheresse où le lac était descendu, deux membres d'un kibbutz voisin, le kibbutz de Guinossar, avaient découvert les traces de ce bateau. Bon, ce bateau s'était conservé dans la boue, bien qu'il était entièrement de bois, parce que, justement, il avait été enseveli dans cette chape de boue. Il a fallu le dégager de là avec d'infinies précautions. C'est toute une histoire. On a un petit film là-dessus qu'on a pu voir. Vous pourrez le regarder en nouveau si vous vous en souvenez plus. Et alors, le problème était le suivant. C'est que le bateau, le bois de ce bateau était comme une éponge, quoi. Absolument spongieux. Il était évidemment imbibé d'eau. Et lorsque cette eau allait sécher, eh bien, le bois allait tomber en poussière. Donc, ça veut dire que le bateau, ce bateau inestimable, parce que c'était une des découvertes archéologiques les plus phénoménales de cette période-ci, ce bateau allait tout simplement disparaître. Or, justement, là, des chimistes ont réussi à préparer une solution dans laquelle ce bateau a trempé pendant 14 ans. 14 ans pour que justement le bois retrouve sa cohésion, ce qui restait du bois retrouve sa cohésion, et que finalement ce bateau puisse être conservé. Et il est aujourd'hui visible, vous l'avez vu ces derniers temps, quand j'ai des voyages, donc à l'air libre. Bon, voilà des techniques qui. On aurait découvert ce bateau il y a 30 ans, on aurait été obligé de le voir disparaître, quoi. Voilà, ça aurait été un désastre, ça aurait été une catastrophe. Donc voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire ici sur ces techniques nouvelles. Des techniques nouvelles qui permettent alors une conservation des objets, qui permettent d'affiner certaines estimations au point de vue chronologique. Ça, encore une fois, la vue, ça reste quand même encore le gros point noir. Qui permettent un meilleur déchiffrage, une analyse. Alors aussi, oui, j'ai oublié une chose très importante. On a fait de très très gros progrès aussi en ce qui concerne l'étude des restes des ossements en particulier. Et là aussi, donc, une analyse très fine, justement, à partir des codes génétiques maintenant aussi. Vous savez, les mesures de l'ADN dans les ossements qu'on retrouve dans les vieilles tombes ont permis aussi de déterminer un certain nombre de réalités. Par exemple aussi le fait que il semblerait, c'est très curieux, il semblerait qu'il y ait un gène spécifiquement juif et que un code ADN, n'est-ce pas, se transmette à ce niveau-là. Bon, enfin, c'est des hypothèses encore, mais enfin, des spécialistes de ce type d'analyse serait arrivé justement à cette conclusion. Bon, on peut aussi reconstituer, grosso modo, comme le font les médecins légistes, par exemple dans les laboratoires de criminologie, on peut reconstituer les conditions de la mort de l'individu, des traces d'empoisonnement, par exemple, pour savoir qu'un tel est mort empoisonné. En 1970, a eu lieu une découverte tout à fait extraordinaire sur une des collines qui jouxte le mont des Oliviers, qui s'appelle Givat HaMiftar. Dans des vieilles tombes qui dataient de l'époque du deuxième temple, on a retrouvé un certain nombre d'ossuaires. Et dans un de ces ossuaires, on a découvert des restes d'un crucifié. Ça veut dire que les deux os du talon, calcaneum on appelle, c'est ça, étaient transpercés par un énorme clou d'une douzaine de centimètres, 10-12 centimètres. Ce clou n'avait pas pu être enlevé au moment où on avait décloué le corps de la croix, si bien qu'on avait dû couper donc les deux tibias pour permettre la descente du corps de la croix. Et on voyait très bien le coup de hache qui avait coupé net, n'est-ce pas, les deux tibias qui étaient donc restés dans cet état-là. Évidemment, cette première découverte d'un crucifié, des traces de la crucifixion, qui était un supplice très très courant à l'époque romaine, bien sûr, a provoqué beaucoup d'émotions. Alors des spécialistes, des médecins légistes, spécialistes des enquêtes criminelles les plus poussées, se sont penchés justement sur le squelette de ce fameux crucifié de Givat HaMiftar. Et alors ils ont pu reconstituer, grâce à des études très fines, les conditions de la mort de ce malheureux, qui portait le nom de Yohanan. Et donc le processus de la mort de la croix. Donc maintenant, on connaît beaucoup mieux, depuis cette découverte, ce qu'était le supplice de la croix et comment finalement mourait un crucifié. Quelles étaient les raisons physiologiques de la mort de la croix et vraiment le caractère particulièrement pénible et cruel et la souffrance énorme que le crucifié endurait justement avant de mourir, quoi. Bon, voilà le genre de progrès qui ont pu être faits justement dans la science archéologique de nos jours. Bon, on sait aussi d'ailleurs que les clous n'étaient pas enfoncés dans les mains, comme la plupart des représentations actuelles, artistiques le montrent, pour une bonne et simple raison, c'est que le poids du corps aurait fait arracher toute la chair, si vous voulez, entre ça n'aurait pas supporté. Le fameux Yohanan avait les clous à peu près à ce niveau-là. Et on voit très bien les traces des clous sur les deux os de l'avant-bras. Il y a une éraflure à cet endroit-là qui précise exactement où le clou qui retenait le corps sur la croix, donc les bras sur la croix, étaient enfoncés. Donc là aussi, en ce qui concerne la crucifixion de Jésus, on peut en tirer aussi des conséquences, bien entendu. Bon, voilà, si vous voulez, quelques exemples qui nous montrent où on en est aujourd'hui en ce qui concerne l'archéologie. Bon, peut-être je vais m'arrêter là pour tout de suite, là, si on a des questions sur ce point, avant d'aborder maintenant l'étude des différentes époques archéologiques que nous avons vues.
Il y a quelques temps, il y a aussi des archéologues, j'ai vu un reportage, c'était des Français, qui avait travaillé sur le phare d'Alexandrie.
Oui.
Et qui avait donc plongé, ils avaient peut-être certains si, mais ils mesuraient tout, absolument tous les pierres qui se trouvaient, c'est-à-dire qu'il y a plein de pierres qui ont été renversées dans le port, quoi, hein. Les vieilles pierres, ils avaient modélisé après sur informatique. Avec ces pierres-là, ils avaient pu rebâtir exactement le phare, et donc c'était un travail énorme. Hein.
Ouais.
Le phare informatique, quoi, remodeler.
Oui, c'est sûr, on arrive.
Donc chaque pierre marche à la ici, même en 3D.
Ouais, ouais.
Et finalement, ils avaient pu dire, effectivement, c'était un bâtiment comme ci, comme ça, et il donnait à peu près son aspect architectural.
C'est ça, ouais. Ouais, oui. Oui, monsieur sûr.
C'est une technique.
Oui, ouais, c'est très, très pointu. Alors ça a son avantage, je vous ai dit tout à l'heure, bien sûr. Maintenant, l'inconvénient, c'est que ça exige des spécialisations de gens qui finalement se polarisent sur cet aspect des choses et puis ne prennent pas en compte ce qui est... Bon, c'est l'envers du décor, quoi. Autre chose ?
Pour ce qui trouve des squelettes de plusieurs millions d'années, c'est quelle datation, ça ? sur le carbone.
Là, ils n'ont pas d'autres moyens. Il n'y a pas d'autre moyen. Ou alors, les couches sédimentaires. Mais on sait depuis les travaux de M. Berthaud ce qu'il faut en penser. Oui.
Et pour les corps qui restent séjournés dans l'eau, ça doit modifier aussi pas mal. Le fait d'avoir passé quelques mois, quelques années dans l'eau.
Oui, alors justement, là, c'est très intéressant. Dans le même ordre d'idée, effectivement, un médecin légiste a examiné dernièrement, quelques-unes des momies qui se trouvent au musée archéologique du Caire, les momies des pharaons. Et notamment, ils sont tombés sur une momie fort intéressante, qui est la momie de Mer-Neptar, qui était le fils de Ramsès II. Et ils ont déterminé que la cause de la mort, comme je disais tout à l'heure, or la mort de ce pharaon s'est faite par noyade. Là, c'est absolument certain. Et alors, ce qui était très intéressant aussi, c'est que, avant sa mort, le pharaon a subi un choc violent qui lui a brisé le bras gauche. Hein, et donc, qui a fait que toute une partie aussi de la cage thoracique du côté gauche a été enfoncée. Il y a des côtes qui étaient brisées. Et alors, effectivement, il y a des traces d'un séjour sous l'eau. Le corps, ensuite, est resté sous l'eau un certain nombre de temps avant d'être récupéré, momifié, et puis donc enterré, comme le faisait Pharaon. Et donc, ce médecin qui a fait donc cette étude sur les momies se demandait si ce ne serait pas le fameux Pharaon de l'Exode, dont il est question dans le livre d'Exode, justement, qui, selon le récit biblique, a été précipité dans la mer. Effectivement, pour que ce choc, je crois que le bras a été cassé de très méchante manière, de telle sorte que ça a dénoté un choc d'une très grande violence. Donc, avant sa mort, il a été précipité. Donc, la vague qui devait s'élever de 8 à 12 mètres de haut représentait une pression de 12 tonnes au mètre carré. Donc, de son char, il a été précipité de cette manière-là, hein, par la vague, qui l'a pris donc du côté droit. Il a donc été raclé le fond du côté gauche, d'où tout le côté gauche est squinté, hein, y compris le thorax. Et puis, il a séjourné dans la mer. Il a séjourné dans la mer un certain temps, et les corps ont été rejetés le lendemain, comme nous lisons dans le livre de l'Exode, sur le rivage, quoi, les Égyptiens ont ramassé les morts, quoi, dont le cadavre du pharaon, quoi. Voilà, c'est le genre de choses auxquelles on arrive.
C'est possible qu'ils aient réuni en même temps.
Que ?
Ils aient réuni en même temps, une corrigence, enfin pas une corrigence, mais parce que.
Oui, c'est possible. C'est possible qu'il y ait eu une corrigence déjà et que ça pourrait être de fait, pas pour être. Bon, ça c'est tous les problèmes que ça pose, c'est sûr. Une découverte comme ça pose des problèmes historiques. C'est toujours l'interprétation. Il y a le fait et l'interprétation. C'est ça le problème de l'archéologie. Quand on a un fait, il faut l'interpréter. Et là, on peut se tromper. Parce que nos braves amis réformés avaient du mal à comprendre, c'est que il peut y avoir différentes interprétations d'un même fait. Mais justement, le profane, et finalement ces gens-là sont des profanes, s'imagine toujours que l'interprétation qu'a donnée le découvreur du fait est aussi certain que le fait. Donc il prend le fait et en même temps il prend l'interprétation. Ça, un vrai scientifique ne le fait pas. Oui, autre question ? Bon, alors on va aborder maintenant un nouveau chapitre. C'est donc, on va étudier chaque époque archéologique avec précision. Premièrement, c'est l'époque néolithique. L'époque néolithique, c'est l'époque qui remonte, si vous voulez, tout ça, c'était assez vague, bien sûr. Mais disons, au maxi, à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est à peu près l'âge de l'humanité, selon moi. Je crois que l'humanité apparaît à peu près à cette époque-là. Et c'est aussi l'époque où on va trouver alors les premières traces de civilisation véritable, parce que comme l'ont noté, par exemple un homme comme Cramer, dont tu as le bouquin, Philippe, la civilisation apparaît brusquement. Il n'y a pas une évolution comme on l'affirme. L'homme de Cro-Magnon qui descend de son arbre, qui cesse de manger des bananes, qui bon, etc. Non, la civilisation apparaît comme quelque chose d'élaboré tout d'un coup. Bon, ça veut dire que ça et là, il ne va pas y avoir des améliorations, mais si vous voulez, le principe même est déjà là. Bon. Comme l'a dit justement ce même professeur Cramer, l'histoire commence à Sumer, bien qu'aujourd'hui on veuille nous dire le contraire. Qu'elle commence en Chine ou ailleurs, je ne sais pas exactement, enfin oui, en Asie en tout cas, l'Extrême-Orient. En fait, c'est à Sumer que tout commence, c'est-à-dire l'endroit où la Bible situe, en fin de compte, le Jardin d'Éden. Là apparaissent donc une race d'hommes, enfin plusieurs races, en fin de compte. Mais notamment ceux qui vont être à la base de la civilisation sumérienne sont des non-sémites. Des non-sémites qui vont se répandre un peu partout, justement, dans le bassin méditerranéen. Ce qui est intéressant de noter, c'est que premier mode d'existence, en fin de compte, l'humanité un peu partout dans le croissant fertile, dans le Moyen-Orient, en fait, de nomadisme, il faut plutôt parler d'un semi-nomadisme. Qu'est-ce que ça veut dire un semi-nomadisme ? Ça veut dire que les semi-nomades, à l'inverse des véritables bédouins, sont des gens qui élèvent essentiellement du petit bétail. Ça veut dire des moutons et des chèvres. Ce n'est que beaucoup plus tard que vient le chameau. Et le chameau est l'animal qui permet justement de s'enfoncer profondément dans le désert. Et donc, avec l'apparition du chameau, et la domestication du chameau, apparaissent les vrais nomades. Mais aux aurores de l'humanité, nous avons affaire à des semi-nomades. Et les semi-nomades vont de lieu en lieu, mais ils ne s'enfoncent pas dans le grand désert. Ils restent à la lisière du pays fertile. Et l'hiver, ils se sédentarisent. L'hiver, les conditions du désert sont plus favorables parce que c'est une saison des pluies. Et même s'il pleut relativement peu dans les déserts, la proportion des pluies est suffisante pour faire une culture saisonnière. Et l'hiver, le nomade se transforme en sédentaire qui cultive. Vous avez ça, par exemple, c'est typique avec l'histoire des deux frères, Cain et Abel. Abel est un éleveur de bétail, donc un nomade, un bédouin, et Cain est un cultivateur. Et l'époque néolithique est l'époque où, effectivement, on voit apparaître ces deux types d'existence. Par exemple, on trouve en Transjordanie, ça veut dire dans la Jordanie actuelle, si vous voulez, au-delà du Jourdain, des structures tout à fait étranges, qui sont des espèces de murets de pierre. Les unes sur les autres, c'est pas une construction vraiment, quoi. Alors, professeur Nelson Gluck, qui a fait des fouilles en Transjordanie, donc dans les années 30, a trouvé dans
tout de, depuis le Golan jusqu'à Kaba, si vous voulez, ce genre de structure. Je me demandais ce que c'était. Par contre, vous avez, par exemple, à Petra, vous avez des graffitis sur les parois de rochers qui représentent des choses à peu près comme ça. Voilà à peu près le graffiti. Voilà. Et là, vous avez alors des espèces de bons hommes, représentés à peu près comme font les enfants. Hein. C'est à peu près comme ça. Hein. Et puis, voilà, vous avez ici, voilà, deux ou trois bons hommes, comme ça. Hein. Et puis là, des gens qui... Et puis vous avez d'autres là, d'autres bons hommes. Puis vous avez des espèces d'animaux comme ça, hein, qui rentrent là-dedans. Bon, on a aussi, alors un peu plus tard, enfin beaucoup plus tard, mais au début de l'ancien empire égyptien, de la première dynastie, le premier roi de la première dynastie, fondateur de l'Égypte unie, s'appelle le roi Narmer. On a ce qu'on appelle la palais du roi Narmer, qui se trouve au musée du Caire. Et là, le roi Narmer, il y a deux faces. Il y a une face où le roi est représenté, tenant ses ennemis dans sa main, et avec une masse d'armes, s'apprêtant à les assommer. Vous avez peut-être vu ça, d'ailleurs. Elle est célèbre, cette plaquette du roi Narmer. Et sur l'autre face, le roi est représenté sous la forme d'un taureau, symbole de la force, dans le Moyen-Orient, en train de piétiner ses ennemis qui sont à terre. Pendant que vous avez deux autres ennemis qui sont représentés en beaucoup plus petits, qui fuient. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un de ces ennemis, qui est représenté comme des hommes barbus d'ailleurs, tandis que les Égyptiens, déjà à cette époque-là, sont glabres, un est représenté avec... Enfin, qu'est-ce qu'on y va venir ? On voit quelque chose comme ça. Voilà, hein, on fait comme ça jusqu'au bout. Et en dessous de l'autre, voilà ce qu'on voit. Quelque chose qui ressemble exactement à ces deux structures. Et donc, Nelson Gluck est arrivé à la conclusion que ces structures étaient des endroits où les Bédouins se réfugiaient en cas d'attaque par les pillards pour mettre leurs troupeaux à l'abri. Si il y avait des pillards qui arrivaient, on poussait les troupeaux donc, dans cette espèce de sas, quoi, si vous voulez. Hein. Ça, c'était facile, si vous voulez, et puis ça se rétrécissait, et quand ils arrivaient là-dedans, on bloquait, et on pouvait ici défendre, il y avait éventuellement des tours, des tours aux trois angles, aux quatre angles, aux trois angles essentiellement, et puis parfois ici aussi à l'entrée, d'où on pouvait défendre les troupeaux contre les pillards. Et ces structures a existé en Transjordanie, donc vous voyez, ça correspond à ça, on voit très bien les personnages qui poussent leurs troupeaux ici à l'intérieur. Et donc le pharaon aux aurores de l'Égypte a triomphé de ses ennemis, d'une part des ennemis qui étaient des gens qui avaient des villes fortifiées. Ici, on a grosso modo le plan d'une ville fortifiée, et des gens qui étaient des nomades, qui sont symbolisés par ces deux ennemis qui fuient, qui sont au-dessus de ces deux structures. Bon, si vous lisez le livre de Job, vous vous souvenez que parmi les nombreux malheurs qui ont atteint Job, qui habitait cette région, le pays d'Oud, c'est justement en Transjordanie, il y avait le fait que des pillards sont tombés sur ses troupeaux et sur ses bergers. Et qu'un de ses bergers seul a pu s'échapper pour venir annoncer à Job le fait que ses troupeaux étaient en train de tomber entre les mains des pillards. Les pillages de troupeaux, évidemment, c'était tout à fait courant à cette époque-là, parce que le troupeau représentait l'essentiel de la richesse de la famille. C'est évident. Alors justement, on avait créé des structures pour mettre ces troupeaux à l'abri. Donc ici, on a les plus anciennes traces du nomadisme. Donc, époque néolithique, nous avons ici affaire à un nomadisme. Essentiellement nomadisme. Là, les villes viennent beaucoup plus tard. Là, j'en ai parlé, encore que vous allez voir dans un instant qu'il y avait aussi les premières villes qui apparaissent à cette période-là. Mais ce type de ville est plus ancien, plus récent, je veux dire. Bon, maintenant, vous avez un autre élément tout à fait intéressant, c'est que à côté de ce nomadisme, on a déjà une espèce de sédentarisation
qui se fait également aussi dans des grottes. Par exemple, on a une des plus anciennes traces d'occupation du pays d'Israël, ce sont les grottes du Carmel. Grottes du Carmel qui sont occupées par un type humain très caractéristique, qui est un type méditerranéen. Donc, des individus relativement petits, les méditerranéens à cette époque-là, donc jusqu'à maintenant, sont plus petits que les nordiques, avec donc des traits qu'on peut reconstituer en utilisant les crânes, comme je vous dis tout à l'heure, n'est-ce pas, qui sont tout à fait caractéristiques aussi. Maintenant, les Natoufiens avaient une coutume tout à fait spéciale, c'est que quand la chair était décomposée, notamment sur le crâne, ils reconstituaient, si vous voulez, les traits du défunt à partir de la terre, de terre cuite. Les yeux étaient représentés par des perles, si bien qu'on sait exactement, si vous voulez, on sait à peu près, en tout cas, à quoi ressemblait le mort. Son aspect physique était reconstitué. Et selon Yadid, justement, cette coutume de remodeler en quelque sorte la chair décomposée sur le squelette avait à voir avec ce qui nous est dit dans le livre de la Genèse. Donc l'Éternel Dieu forma l'homme avec le limon de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et là, selon Yadid, on aurait la plus ancienne foi dans la résurrection, des traces de la plus ancienne foi dans la résurrection des morts. Ça veut dire qu'on refaisait ce que Dieu a fait au commencement, ça veut dire modeler l'homme du limon de la terre en attendant le jour où Dieu, à nouveau, soufflerait dans ses narines le souffle de vie. Vous voyez ? Alors, les Natoufiens du Carmel étaient aussi des espèces de semi-nomades. Ça veut dire que les grottes étaient des endroits où ils se réfugiaient l'hiver, et là, ils faisaient tout autour une culture saisonnière. Quand le beau temps revenait, ils repartaient avec leurs troupeaux. Donc, si vous voulez, on a une civilisation, ce qu'on appelle la civilisation natoufienne, qui est essentiellement, justement, une civilisation nomade. Maintenant, il y a un phénomène tout à fait unique à Jéricho. Jéricho, ah ben je continuerai la prochaine fois, je crois qu'on l'heure est terminée. Si je commence sur Jéricho, on va passer la nuit. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?
Le Séché, c'était un médecin qui avait fait justement une étude sur tout ce qui était les souffrances de la crucifixion. Mais juste avant, il avait fait un petit. Je vais donner un petit topo sur. On dit que dans les trucs de l'évolution, enfin, dans la théorie, qu'à partir du moment où les hommes entrent dans la mort, on passe
de l'animalisme à l'humain.
Et il disait donc qu'il y avait un gars, c'était avant, juste après la guerre, je crois, pas loin de Roc Amado et compagnie, qui avait acheté un terrain, qui avait creusé, comme ça, il avait creusé. Il est tombé justement sur des squelettes, donc c'est ce qui était daté en tout cas de l'homme, de l'homme singe, quoi, l'homme idiot. Et puis ce qui est particulier, c'était que justement ces squelettes étaient c'était une sépulture, quoi. Et il y avait plusieurs étages justement, et ce qui s'était passé, c'était que les uns avaient enterré les autres au fur et à mesure, quoi. Et donc, ce qui prouvait bien que les théories étaient complètement fausses. Alors, cette grotte, alors, les autorités sont de gloire, et le gars a été exproprié, et c'est le site a été détruit. Détruit pour pas que, justement, ça gêne. Alors, lui, il a eu le temps de prendre des photos, je crois. Le gars a eu le temps de prendre des photos du site avant qu'il soit complètement détruit par les autorités. Et juste à côté, il a donc visité son terrain à lui, donc il a construit une maison. Et. Il a pris sa pioche, il a creusé à 2 mètres à l'entrée de sa maison. Et rebelote, il a retrouvé un autre truc. Et je crois qu'il était en pleine bagarre, justement, avec les autorisés qui voulaient absolument cacher le truc.
Oui, c'est sûr.
Une histoire complètement.
Mais c'est sûr. C'est ce que je disais à nos braves amis réformés l'autre jour. Le drame, c'est quand la science devient idéologie. Alors là, elle devient intolérante. elle devient système, etc., et elle devient oppressive, quoi. Or, on est justement aujourd'hui devant ce scientisme idéologique qui inonde complètement notre société à partir de dogmes, véritables dogmes. C'est une véritable idole, c'est une véritable religion, la science. D'ailleurs, on s'en est bien rendu compte. C'est là-dessus que ça a chopé constamment, quoi. Autre question ?
Ah bon. Ah oui, non, mais ça, il faut voir, il y a des gens qui sont en biologie. Ah, creux, creux, vraiment, je crois. Ah oui.
Oh oui, mais c'est... comme le disait déjà en son temps Jean Rostand, l'évolution est une religion à laquelle ces grands prêtres ne croient plus. Mais c'est encore bon pour le vulgus pecus, quoi, c'est ça la question. Or, les instituteurs et professeurs sont le vulgus pecus pour ces gens-là. Ce sont les pires, comme disait Jacques Ellul, les plus ouverts à toutes les idéologies, à toute la propagande, c'est les intellectuels. Et parmi les intellectuels, les ecclésiastiques sont les pires, il a ajouté. Oui, non, c'est sûr. C'est un mode de vie qui a traversé les temps historiques. Hein.
Ouais. C'est ce qu'on disait justement en Israël, en voyant les Bédouins, qui commencent maintenant justement à...
C'est la fin de ce mode de vie, oui. Ce qui semblerait dire aussi que c'est la fin de l'histoire de l'humanité. Bon, on va rester là.